Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Bon, évidemment, on surveille aujourd'hui l'enquête publique sur le décès de Joyce Echaquan qui a débuté aujourd'hui sa deuxième journée d'audience. Et pour en parler, je suis avec Michel Audette, qui est ex-commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Madame Audette, bonjour.
Bonjour à vous.
Bon, évidemment, là, je pense que c'est important qu'on commence par dire que cette enquête-là, cette deuxième journée, c'est très, très émotif, là.
Vraiment. Vraiment, c'est palpable. On le sent. Puis en plus,
ouais,
on sent la part de la coroner. Il y a eu des moments où j'ai jamais vu ça. Donc, on le sent et on l'entend.
Quand vous dites que vous avez jamais vu ça, c'est-à-dire que vous avez jamais vu autant d'émotion, d'empathie, de sensibilité?
De sensibilité, je dirais, ou d'empathie, parce que, bon, on vous l'avez bien dit au début, j'arrive là d'une commission d'enquête qui a été adaptée pour accueillir les familles dans un contexte de leur nation puis de leur protocole. Donc, on n'avait pas l'air d'un tribunal, mais d'un cercle où on échange. Et là, pour ces personnes-là qui vont arriver dans le très formel et traditionnel de c'est quoi une salle de coroner ou un tribunal. Puis le coroner va sortir de son box, comme elle dit, puis excusez-moi, là, j'ai jamais fait ça dans ma carrière, mais je le fais. Puis peu importe comment les gens vont réagir, je vais descendre pour faire mes sympathies à Monsieur Echaquan. Et puis ce matin, de commencer d'entrée de jeu, on va se croiser avant qu'elle entre dans sa salle. Il est tôt encore, donc il n'y a personne. Puis elle nous explique, là, à les quelques personnes, qu'elle est choquée ou elle réagit parce que quelqu'un va lui dire des choses. On n'a pas demandé c'est quoi que la personne a dit, mais on voit que c'était en lien avec le travail qu'elle faisait là, pour cette enquête-là. Et de le dire dans son introduction, pour moi, ça, c'était pas parce qu'on l'a sensibilisé, mais elle fait ce qu'on a toujours espéré d'un coroner ou d'un juge.
Oui, ben c'est la coroner Gayane Kamel qui officie. Puis vraiment, tu sais, je vais citer ces mots quand même parce que je pense que ça donne le ton, là. Elle a dit, vous allez quitter d'ici avec des réponses. Et bon, vous avez fait allusion aux condoléances qu'elle a offertes à la famille Echaquan. Vous avez remercié pour leur courage aussi. C'est désolé un peu de pas pouvoir les serrer dans ses bras comme vous l'avez souligné. Puis Paul-Émile Ottawa, par ailleurs, l'a souligné lui aussi sa bienveillance envers les témoins qui se présentent à la barre parce que ça doit vraiment pas être facile d'aller témoigner justement dans ce cadre très formel.
Alors, c'est pas du tout, pas du tout. Il y a toutes sortes de facteurs qui font que c'est pas facile parce que on nous a longtemps dit qu'on n'avait pas la place de pouvoir exprimer quoi que ce soit, là, le colonialisme, à titre d'exemple, les écoles résidentielles, le silence. Puis tout ça fait qu'après ça, c'est ce même système-là qui a pris ma fille ou qui m'a empêché de comprendre pourquoi ma fille est morte ou mon bébé n'est jamais revenu. Donc, tu sais, il y a des blessures qui sont encore très fraîches. Puis qu'elle, même moi, j'avais des doutes au début, là. T'sais, on l'a rencontrée avant, là, il y a plusieurs semaines pour le dépôt sur l'autopsie, le rapport d'autopsie et tout ça. Puis je me disais, je l'aime beaucoup, la personne, je la sens sensible, mais est-ce qu'elle va briser un peu ce qu'on déplore, nous? Et jusqu'à date, je vous dirais que c'était tellement important qu'elle accepte et qu'elle dise aux gens, prenez votre temps.
Michel Audette, dites-moi, ce qu'on va apprendre dans les prochains jours, évidemment, va être déterminant pour s'expliquer ce qui s'est passé, mais pour déterminer la suite aussi, pour s'assurer que ça ne se reproduise plus jamais. C'est quoi l'importance de faire ces audiences-là publiquement?
Des audiences pour publiques? Ma part, c'est vraiment, là, c'est mon point de vue, là, c'est quelque chose qui permet encore, par un moyen qui n'est pas le nôtre, là, mais qui appartient à la société québécoise, au gouvernement, là, c'est ça qu'on se donne comme démocratie puis structure, qui va dire à ce monde-là qui anime ces structures-là, voici les failles, voici les manquements, voici les preuves, puis voici ce qu'on suggère. Moi, ma job, c'est juste de faire des recommandations, là, ça s'arrête là. ce qui veut dire qu'il y a un autre wagon qui attend pour honorer ces recommandations-là. On est conscient là, que c'est pas elle qui va faire un tribunal pour trouver qui sont les coupables. Donc, ça permet à une famille, à des gens qui ont été longtemps dans le silence ou dans l'incompréhension, d'avoir un aspect pédagogique, mais je voudrais plus puissant que ça. Pour moi, là, je le vois, là. Mm. La guérison. Puis ça, c'est tellement important.
Oui, puis Mme Odette, vous avez dit que c'est pas notre façon, c'est une façon blanche de procéder. Est-ce que vous avez confiance en cette façon-là, puis surtout en la coroner Guéanne Canet?
Moi, j'ai confiance. J'ai confiance qu'il y a du monde partout dans ma trajectoire de vie, je vous dirais, là, qui ont fait des petits ou des grands changements. On a un projet de loi là, sur les bébés disparus là, qui est en train d'être débattu à l'Assemblée nationale. C'est-tu jamais vu, ça? Là? C'est pas des autochtones députés là, qui l'ont amené. Donc, ce sont des Québécois, des gens qui viennent de différentes communautés culturelles qui ont pris le Québec comme chez soi, qui débattent pour nous dans un endroit qu'on n'est pas. Ça, c'est à quelque part de l'espoir. Il faut le nourrir, ça.
Oui, puis on a un nouveau ministre des Affaires autochtones, Yann Lafrenière, qui a l'air tout disposé à écouter, du moins, là, je le sens vraiment à l'écoute. Est-ce que, à votre sens, cette enquête-là va être suffisante pour mettre en lumière les enjeux systémiques là, qui ont peut-être joué dans la mort de Mme Échaquan, mais dans les mauvais traitements aussi qu'ont pu subir des gens issus des Premières Nations dans notre système, pas seulement hospitalier, dans tous les systèmes qui sont liés au gouvernement?
Bien. Ce travail-là, ce processus-là va venir ajouter à ce qui est en train de se dire en ce moment, où là, on lit dans les journaux des mamans qui ont été stérilisées sans leur consentement, où on voit qu'un Mouchoum Mohawk retourne chez eux en couche souillée et en jaquette en plein hiver, avec photo à l'appui. Donc, on le voit là que c'est un phénomène qui est pas juste à la Naudière, mais à travers le territoire qu'on appelle Québec. Donc, ça va être un poids de plus à nos voix et messages qu'on a longtemps répétés.
Oui, puis Mme Odette, vous avez ouvert la porte. Là, je voulais vous en parler de cette femme algonquine écrite qui a donné un témoignage au Devoir. Ce que dit là, le mari de Josh Échaquan, là, c'est quand même que Mme Échaquan avait peur de se faire soigner à l'hôpital parce que elle avait peur qu'on l'encourage à se faire avorter. T'sais, elle avait peur d'être victime de violences obstétricales, finalement, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Elle aurait eu des pressions là, pour subir 3 avortements puis une ligature des trompes, Mme Échaquan. Puis là, cette semaine, je pense que c'est hier, cette femme-là, Algonquin écrit, qui dit qu'on l'a stérilisée sans son consentement. Là, ça commence à être préoccupant, tous ces témoignages-là. Est-ce que les femmes autochtones sont autant victimes d'abus et de violences obstétricales? Parce que je crois que c'est vrai et c'est absolument inacceptable que ça se passe en 2021.
Bien, c'est là où il faut aussi ouvrir cette réaction que vous avez, puis c'est important que vous la partagez, puis je vous en remercie, là, qu'on parle d'ici de l'acte ultime, là. C'est l'ablation, sinon on pince, on coupe les trompes. Oui. Mais il y a une autre forme de contrôle sur notre santé reproductive qu'on n'a pas assez mentionné. Et là, c'est à travers toutes les communautés au Québec.
Okay.
Moi, j'en fais partie. À 13 ans, quand on avait nos règles un peu plus tôt ou à cet âge-là, tout de suite, Santé Canada, via notre dispensaire, puis dans la culture de toi, à ton enfant, tu vas lui dire ça aussitôt qu'elle a ses règles, vite la pilule, sans nous expliquer c'est quoi une santé sexuelle, puis un droit à ma santé sexuelle. Après ça, ma nièce, c'est tout de suite, ah ouais, on y rentre, le dépôt Provera, on rentre une petite plaquette dans son bras, sans nous expliquer. Donc, c'est une autre forme de contrôler notre santé sexuelle ou reproductive. Mm-hmm. Puis certaines, c'est, on va complètement enlever l'utérus. Pour moi, ça, c'est de l'ordre, ça passe pas. C'est une autre forme de contrôler nos enfants. C'est plus dans les écoles résidentielles, mais gars, je vais te dire comment je vais gérer ça. C'est partout. Et là, quand on en parle, de plus en plus, les femmes vont m'écrire sur Messenger, « Hey, ça m'est arrivé à ma fille puis à moi aussi, ou à ma mère, et ainsi de suite. »
Puis qu'est-ce qui se cache derrière ça, selon vous, Mme Odette? Parce que moi, vous me parlez de ça, puis je vais dire un gros mot, là, mais on dirait qu'on essaie de faire du contrôle des populations. C'est la première expression qui me vient. C'est très impulsif, là, ce que je dis.
Ouais. Ben écoutez, quand on regarde le rapport AMFADA Québec, celui que je vais signer avec l'équipe de recherche, on est en mesure de faire certains parallèles avec les orphelins du Plessis.
Ouais.
Hein, là où ce sont des enfants sous la tutelle de la province ou avec un certain une réalité. Donc, on met en place une culture et une façon de faire. Mais ils n'ont pas de parents, là. C'est des orphelins. Hein? Ils n'ont pas de parents. Alors que nous sommes des parents, mais la loi sur les Indiens nous considère comme des enfants. Donc, dans la culture populaire, sûrement, ou dans la façon de faire, les gens disaient, ben là, c'est tout des flots, anyway, je vais leur enlever leur enfant. Mm. Et où on va tolérer ça, mais qui est malheureusement plus contemporain, qui est encore le cas aujourd'hui.
C'est surréaliste de se parler de ça à notre époque, alors qu'on est dans toutes ces conversations sur le racisme systémique. Bon, encore des gens qui refusent de l'admettre. J'espère que cette commission d'enquête-là va permettre, oui, de faire la lumière sur le décès de Mme Échaquan, mais va permettre aussi à une véritable réflexion puis à une véritable prise d'action aussi, parce que c'est ça qu'on veut au bout du compte, Mme Audet.
C'est exact. Puis les petites, faut les célébrer. Mm. Les grandes, faut les démontrer qu'elles peuvent servir de d'exemple. Puis j'en vois aujourd'hui comment une femme qui a été habituée de travailler de telle manière aurait peut-être, je sais pas, là, c'est moi qui le présume, un peu ébranlée dans OK, ben je m'adapte. Puis j'ai trouvé que c'est une personne qui s'adapte vite. Donc, ça veut dire que si elle est capable, il y en a des centaines et des centaines qui sont capables d'en faire autant.
Ben, vous avez complètement raison. Michel Audet, merci, qui est ex-commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. On se parlait de l'enquête publique sur le décès de Joyce Échaquan qui a débuté aujourd'hui sa deuxième journée d'audience.